Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte une histoire extraordinaire que je tire du livre de Patricia Touranchot paru au Seuil en coédition avec lesjours.fr, Le Magot, ou comment le tueur en série Michel Fourniret est parvenu à mettre la main sur le magot du gang des Postiches, une bande de braqueurs qui a écumé les banques dans les années 80. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
On est en septembre 1981, dans un bistrot du quartier de Belleville, à Paris. Il y a là trois amis de 25-30 ans qui ont déjà, disons, une certaine expérience du braquage de banque. Dédé Belaïch, un juif tunisien voleur depuis ses 10 ans, Robert Marguerie qui court après l'oseille depuis sa naissance, et Bruno Berliner. Et ils se plaignent, tous les trois. Les sas de sécurité, les vigiles à l'entrée, les caméras de surveillance, le métier de braqueur est devenu difficile. Et c'est Berliner qui a l'idée. Ben, on pourrait faire les coffres des clients, hein? Ça s'ouvre tout seul, ces boîtes de sardines. On est en 1981. Les socialistes viennent d'arriver au pouvoir et les nantis sont réputés planquer leurs magots dans des coffres à la banque. Le soir et le week-end, c'est impossible, il y a des alarmes. Mais aux heures d'ouverture, hein? Il n'y a pas d'alarme. Il suffit de prendre les clients et les employés en otage et de descendre au sous-sol et de percer les boîtes à sardines. Et avant, pour franchir le sas, il faut bien se présenter. Et donc se déguiser en grand bourgeois rassurant. Et donc ils achètent des fonds de teint, du maquillage, des costumes et des fausses barbes et de fausses moustaches de bonne qualité. Et ils vont tester leur plan à la BNP de la rue du Docteur Blanche à Paris. Ils entrent dans la banque vers midi.
Personne ne bouge, on reste tranquille.
En une demi-heure, ils forcent 8 coffres. Ils repartent. Et comme ça a marché, ils remplissent l'après-midi même. Une agence de la Société Générale rue Rémusat. Le grand Marguerie a enfilé un blazer et s'est collé une barbe et des moustaches noires. Merliner a mis une veste kaki. Et Belaïch s'est grimé en vieux monsieur à barbe poivre et sel. Ils passent une heure à taper à la masse et au burin et à vider les coffres. Et ils empochent en plus 33 briques enfermées dans la chambre forte de la banque. Le gang des Postiches est né. Le mardi suivant, à la banque Verne, dans le 16e arrondissement, ils sont un de plus, un copain de Dédé Belaïch, Patrick G. Et ils tapent 136 coffres, plus de 10 millions de francs. Et puis casse après casse, la bande s'élargit. Ils changent de costume, ils s'attribuent des surnoms à la noix. Leur tactique est d'organiser des campagnes de 2 semaines de braquage, 6 ou 7 banques d'affilée, et ensuite de disparaître pendant 6 mois, histoire de dépenser leur oseille au soleil, en Thaïlande ou ailleurs, se faire oublier. Sauf Berliner. Berliner, il aime la ville. Drôle de type, ce Berliner. En 82, son frère Gérard sort une chanson qui va devenir un tube. Louise.
Le bois que porte Louise, c'est le bon Dieu qui le portait. Le froid dont souffrait Louise, c'est le bon Dieu qui le souffrait.
Eh bien, comme il a de l'oseille, il achète des centaines de 45 tours pour faire monter Louise dans le hit parade. Le mois de mars 1984 est l'apogée du gang des Postiches. En 8 jours, il frappe 4 fois.
Personne ne bouge! Contrôle fiscal!
Toujours le mot pour rire. Depuis le début, ils ont signé 18 attaques de banque, pillé 1300 coffres de particuliers, emporté sans doute 187 millions de francs lourds en lingots, pièces d'or et billets, plus 2 milliards de centimes en ferraille. Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur, n'en peut plus d'être humilié. Il organise une réunion au sommet, place Beauvau.
«
Ça ne peut plus continuer. Que proposez-vous, commissaire ? Eh bien, monsieur le ministre, ils écoutent nos radios avec des scanners, on en est certain. Et donc on pourrait équiper la PJ de radios cryptées.
Quant aux banquiers qui assistent à la réunion, ils proposent d'installer dans leur salle de coffre des alarmes sismiques qui se déclenchent au premier coup de burin. Au même moment, vous entendez au même moment, les postiches attaquent le Crédit Commercial de France dans le 7e arrondissement. Et l'après-midi même, ils enchaînent avec une agence du Crédit Lyonnais dans le Val-de-Marne. À 15h13, ils entrent dans le sas de la banque. Et on les voit très bien sur les caméras de surveillance. Ils essayent d'ouvrir la porte, bloquée. Ils sont coincés. Et donc ils décrochent. Et les photos de la vidéosurveillance paraissent dans Paris Match.
Oh putain! On est reconnaissable, non?
Alors ils se tairent en région parisienne. Mais en vérité, personne ne les a reconnus. La brigade de répression du banditisme est complètement paumée dans ce dossier. On est en mars 1984. Le gang des postiches est assis sur un énorme tas d'or. Son magot. Et c'est pile à ce moment-là, le 23 mars 1984, que Michel Fourniret, qui vient de reconnaître 15 agressions sexuelles, il n'a pas encore tué, échoue en prison à Fleury-Mérogis, sous le matricule 130655. Et comme pour l'administration pénitentiaire, c'est un prisonnier à risque, un type qui peut se suicider par exemple, par précaution, on le colle dans ce qu'on appelle une triplée, une cellule de trois avec un gars solide et deux fragiles comme lui. Et le solide, c'est un breton, un voyou de la mouvance d'action directe, qui s'appelle Jean-Pierre Elgouarche. Dans la cellule, Fourniret est taciturne. D'après ce que dit Elgouarche, il reste dans son coin, plongé dans un bouquin ou en train d'écrire. Il noircit des dizaines et des dizaines de feuilles. Il est en train, en vérité, de rédiger un dossier en 7 chapitres pour sa juge d'instruction. Madame, j'ai l'honneur de solliciter votre attention à la lecture de cette trop longue biographie. N'étant pas un professionnel de l'expression orale, seule la voix épistolaire me permet d'être moi-même. Et de temps en temps, il lève la tête pour lorgner les photos qu'Elgouarche a accrochées au-dessus de son lit. Une belle brune, une fille qu'il a rencontrée 5 ans plus tôt.
Qui c'est, Jean-Pierre ? Elle s'appelle Farida. Farida Amiche. Moi, ma femme, elle m'a abandonné.
Il est discret, Elgouarche, et il ne pose pas de questions. Mais il s'aperçoit que Fourniret est en prison pour mœurs quand un jour, il se fait agresser dans la cour.
Hé, le pointeur ! Viens ici qu'on te fasse la peau ! Salopard, va ! Crevure ! Raclure !
Et là, Elgouarche intervient. L'autre ne lui a parlé que d'un attentat à la pudeur. Mais il le protège. Et du coup, Fourniret est tout le temps pendu à ses basques. Au bout d'un mois, Fourniret s'est bien comporté. Le risque de suicide paraît écarté. Et donc l'administration pénitentiaire retire Fourniret de la cellule d'Elgouarche et il file dans une cellule classique, la cellule numéro 39 du bâtiment D1. Et pendant ce temps-là, que sont devenus nos amis les postiches ? Eh bien, ils continuent leur braquage éclair. En novembre 1985, toujours pour se faire le plus discret possible, ils ont loué une suite au flat hôtel de la rue du Théâtre, dans le 15e arrondissement de Paris. Et le 15 novembre au matin, une femme de ménage vient faire le ménage dans leur suite, la numéro 277. Et dans un canapé, sous un coussin, elle trouve un Colt Python. Alors elle prévient sa direction, qui appelle la police. 3 policiers répliquent. Ils s'installent dans la suite et ils attendent le retour de ses occupants. Et ça va très vite. Les gars rentrent, ils voient les flics, l'un des postiches s'empare de l'arme d'un inspecteur, il lui tire dessus et il se barre en courant. Le deuxième parvient aussi à s'échapper et le troisième, Marguerite, est interpellé et menotté. Bilan, 1 flic blessé, 1 postiche arrêté et deux postiches en fuite. Les flics font le tour de la piole. Ils tombent sur deux grenades offensives, trois revolvers, un pistolet automatique, quatre chargeurs, 300 munitions et des faux papiers. Mais qui sont ces types-là? Michel Chelaoui, le seul qui ait été arrêté, les embrouille.
En fait, on est trois amis, à la rue, sans argent. On a rencontré des Chinois, une filière d'immigration clandestine. Ils nous ont donné de l'argent pour qu'on loue une suite au flat hôtel, qu'on héberge des clandestins chinois. Oh, je suis vraiment désolé d'avoir blessé l'inspecteur. Le coup est parti tout seul, vous comprenez?
Deux mois plus tard, le 14 janvier 86, vers 16h, la radio de la PJ se met à crépiter.
Appel à toutes les voitures. Deux types sont en train de taper au marteau et au burin au sous-sol du Crédit Lyonnais 39 rue du Docteur Blanche, dans le 16e arrondissement.
31 voitures de la BRI et de l'anti-gang foncent sur place. Et quand ils arrivent, au lieu de prendre les gars qui sortent de la banque et de les filer, le patron de la BRB leur tire dessus.
Vite! Un SAMU rue René Bazin, face au 11. L'un des malfaiteurs, Delta Charlie Delta. Il y a un collègue au tapis.
Devant la banque, un carnage. Des voitures dans tous les sens et... sur le trottoir, deux corps. Un enquêteur de la BRB et Bruno Berliner, les bras en croix, son revolver encore à la main. Et puis...
Hé, hey, t'as vu? Il y en a un dans le caniveau, là.
L'inspecteur Pasqualini s'approche. L'un des postiches est blessé. Il a un pardessus, un chapeau bleu marine et une fausse barbiche de rabbin. L'inspecteur se penche et il se dit « Sa gueule me dit quelque chose. » Et c'est quand il rentre au 36 quai des Orfèvres que ça lui revient. La fusillade du flat hôtel il y a deux mois. Le type qui s'est enfui avec les pinces dans le dos, Robert Marguerie, c'est lui, c'est le blessé. Et donc la bande du flat hôtel, bah c'était les postiches. Et ce matin, bah c'était aussi les postiches. C'était le braquage de trop. Et c'est la fin des postiches. Le gang s'est donné rendez-vous dans une planque et il décide de se mettre au vert. Ceux qui se savent rechercher escaladent les Alpes à ski. Dédé Belaïch s'enfuit en Italie et il se fait pincer bêtement à Rome lors d'un contrôle routier. Et il file à la prison de la Rébibia, mais son copain Misca le fait évader en hélicoptère. Bref, à un moment, ils finissent tous par se retrouver en France. Et là, il faut réaliser leur magot. Ce sont des dizaines et des dizaines de kilos de lingots d'or, des kilos et des kilos de pièces d'or. Alors ils en ont donné à planquer aux copains, à la famille, mais il en reste beaucoup, et ils ne savent plus où les stocker. Et là leur revient une règle d'or, édictée par l'un des leurs, Michel Chelaoui, qui s'est fait pincer au flat hôtel.
« Quand tu sais plus quoi faire de ton oseille, eh ben tu l'enterres. »
Et donc, il y en a un qui va enterrer sa part du magot sur la tombe de sa belle-mère au cimetière de Montreuil. Il met les lingots au fond d'une jardinière, il coule par-dessus une chape de ciment rapide, encore par-dessus, il rajoute du terreau, et dans le terreau, il plante des fleurs. Et ce qui est incroyable, c'est que sans s'être concerté, une autre équipe des postiches va faire à peu près la même chose dans un autre cimetière, celui de Fontenay en Parisie, dans le Val d'Oise. La raison pour laquelle ils ont choisi ce cimetière en particulier, c'est très drôle. L'un de leurs avocats a une maison de campagne à côté. Et ceux-là, venez avec moi. On va les suivre. Ils arrivent au cimetière de Fontenay en Parisie à la nuit tombée. Vous voyez la boîte à outils là que porte l'un d'entre eux? Les lingots sont dedans. 34 lingots, bien rangés. Et les autres, vous voyez qu'ils ont des boîtes à la main. Ce sont des Tupperware remplis de pièces d'or. En tout, il y en a pour 800 briques anciennes. c'est-à-dire 8 millions de francs, 2 200 000 euros d'aujourd'hui si on tient compte du coût de la vie. Ils vont au fond du cimetière, derrière la tombe d'un certain Louis Glorian, mort en 1922. Ils sortent des pelles et des pioches, et ils se mettent à creuser. Et ils enterrent le magot. Au même moment, Michel Fourniret, qui est toujours en prison pour une série de viols et d'agressions sexuelles, fait passer une petite annonce dans un magazine catholique. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Et une femme lui répond. Elle s'appelle Monique Olivier. Et il commence à s'écrire beaucoup. Il est en train de la manipuler et de nouer avec elle une alliance criminelle. Après avoir planqué leur magot, les postiches vont se terrer dans une maison, volet fermé. Mais le matin du deuxième jour, à 7h du matin, les flics du raid qui font sauter les portes. Les postiches n'ont pas le temps de se jeter sur leurs armes, ils se font cueillir en caleçon et en survêt. C'est fini. Ils sont partis pour des années de cabane. Avec pour unique consolation que quand ils sortiront, une partie de leur magot les attend au cimetière. À ce moment-là, Michel Fourniret n'est plus en prison. Il a été jugé en juin 1987 devant la cour d'assises d'Évry pour un viol et 7 agressions sexuelles. Et il a pris 7 ans, dont 2 avec sursis. Et comme il a déjà fait de la préventive, eh bien 3 mois plus tard, il a eu sa première permission de sortie. Et 4 mois plus tard, il s'est retrouvé libre. Et il a emménagé dans Lyon avec Monique Olivier. Et à peine dehors, Michel Fourniret cherche à reprendre contact avec son copain Jean-Pierre Elgouarche. Vous vous souvenez, le breton solide avec lequel il a noué une amitié au tout début de sa détention. Et donc un jour, il va devant la porte de Florimérogis à l'heure du parloir. Et il reconnaît tout de suite au loin dans la foule la jolie brune qu'il a vue en photo dans la cellule au-dessus du lit d'Elgouarche. Farida Amiche. Et il va la voir.
Bonjour mademoiselle. Vous êtes bien la femme de Jean-Pierre Elgouarche ?
Oui.
Je suis Michel. J'étais en prison avec Jean-Pierre. On est de bons amis. Et on s'était juré que le premier qui sortait aidait la famille de l'autre. Et donc, ben, voilà, je voulais vous donner mon numéro de téléphone, quoi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas.
Ah d'accord, merci. Bah tenez, voilà mon numéro de téléphone à moi.
Et transmettez mon meilleur souvenir à Jean-Pierre, hein.
Évidemment. À peine arrivé au parloir, Farida raconte la scène à son Jean-Pierre.
Michel ? T'as vu Michel ? Quel imbécile heureux. Un brave type, hein ? Il s'est accroché à moi comme à une bouée de sauvetage.
Et après, à chaque fois qu'il vient en région parisienne, Fourniret va voir Farida avec Monique. Elle les appelle les Popeyes. Elle les trouve plutôt gentils. Un brave couple.
Quelques mois plus tard, Elgouarche, qui est toujours en tôle, rencontre dans la cour de promenade un Italien, Gianluigi Exposito. Et cet Exposito, je ne vous en ai pas encore parlé. Mais il connaît très bien les postiches. Et pour cause. Vous vous souvenez de Dédé Belaïche qui s'est fait arrêter en Italie et qui s'est évadé en hélicoptère? Le jour de son évasion, il a emmené un gars avec lui, Exposito, qui est resté avec eux après et qui s'est fait pincer en même temps qu'eux. Exposito, qui était aussi là le soir où ils ont creusé dans le cimetière et qui sait donc où est le magot. Et un jour, en promenade, il le dit à son nouveau copain Elgouarche.
Je connais un endroit, il y a des lingots et des pièces planquées. C'est dans un cimetière. Alors moi, je vais être transféré en Italie. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut aller récupérer le stock et le changer de place pour le mettre à l'abri, tu vois?
Des lingots et des pièces d'or. Bien sûr qu'Elgouarche connaît quelqu'un. Et l'autre, naïf, Enfin, pas tant que ça, puisqu'il est en train d'essayer de s'accaparer le magot. L'autre lui fait un dessin, sur un bout de papier.
Tu vois, c'est là. Là, il y a une tombe, là. Et c'est juste derrière. Il n'y a qu'à creuser.
Et là, Elguarche se dit, qui peut faire ça pour moi? Son intention finale étant, bien sûr, de garder l'argent. Alors il en parle à Farida, au parloir.
Dis-moi, Farida, j'ai pensé à Michel. Qu'est-ce que t'en penses? Michel, c'est un type totalement inoffensif. En plus, il a des mains de jardinier, puisqu'il s'agit de creuser.
Ah ouais? Ouais, Jean-Pierre, t'as raison. Ah ouais, Michel, c'est une bonne idée.
Et donc, en mars 1988, Farida va voir Popeye, comme elle l'appelle, pour lui proposer le marché.
Tu sais, Michel, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de creuser. Et on a convenu avec Jean-Pierre qu'on vous laissera 500 000 francs. C'est pas mal, 500 000 francs.
Michel Fourniret rêve de s'acheter une ferme. Ça tombe bien. Dans les jours qui suivent, Fourniret aide Farida à installer une trappe chez elle, juste au-dessus des WC, pour y planquer le magot. Et il lui fait la liste de ce qu'elle doit acheter.
Alors, il faut un sac, hein. Du genre surplus américain, tu vois. Et puis une couverture. Une truelle aussi. Deux lampes de poche. Et puis tiens, prends des tubes de PVC aussi. Je sais pas, de 40 cm de long, tu vois. On y stockera les pièces d'or.
Et fin mars, par une nuit sans lune, les voilà donc partis tous les trois, Fourniret, Monique Olivier et Farida, dans la 304 de Fourniret jusqu'au cimetière de Fontenay en Parisie. Fourniret fracture le cabanon des fossoyeurs, il y trouve une pelle et une pioche, ils vont vers la tombe, et il se met à creuser. Et à un moment donné, à peu près à 30 cm de profondeur, il tombe sur la caisse à outils et sur les tupperwares remplis de pièces. Il fait sauter le cadenas.
Waouh ! Les lingots ! Les beaux lingots bien rangés !
Alors ils mettent tout ça dans le sac dans la voiture, et voilà. Tout le monde se retrouve chez Farida, le magot sur la table. Michel Fourniret prend sa part, comme prévu, un demi-million, et Farida planque tout le reste au-dessus de ses toilettes. Les Fourniret rentrent chez eux, ils enterrent leur part dans le jardin. Et là, Fourniret dit à Monique.
Je sais pas ce que t'en penses, mais ça serait mieux d'avoir un peu plus, non? Et même d'avoir tout, hein? Vu le travail que j'ai fait, le temps que j'y ai passé, je mérite mieux que 500 000. Et si Farida n'est pas d'accord, eh bien, je la supprimerai, puis c'est tout.
Trois semaines plus tard, un soir, Fourniret et sa chérie débarquent chez Farida.
Dis donc, Farida, tu pourrais pas m'aider? J'ai un stock d'armes à aller récupérer en forêt de Rambouillet. Tu viendrais avec moi?
Et elle accepte. Et ils partent tout de suite. Il lui fait garer la voiture dans une carrière de sable. Monique Olivier descend, elle va prendre l'air. Michel Fourniret sort un lacet de sa poche. Farida est juste devant lui. Et il serre.
Mais enfin, Michel! Mais qu'est-ce que tu fais? Ne me tue pas comme ça!
Et là, il sort une baïonnette. Et il la poignarde! Une fois, deux fois, trois fois! Et comme elle n'est toujours pas morte, il finit par l'étrangler à main nue. Et puis, il met le corps dans le coffre. Ils vont l'enterrer dans un bois. Et ils vont chez Farida prendre le reste du magot. Enfin, pas tout, ils en laissent un peu, 200 000 francs en pièces d'or. Et ils rentrent chez eux. Et ils vont enterrer l'or avec le reste dans le jardin. Et voilà comment Michel Fourniret a mis la main sur le magot des postiches.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.